Gloire à Dieu, nous sommes dans la joie de continuer notre série Béréen l'explorateur et nous en sommes au livre de Psaume, la deuxième partie, hein, ce qu'on appelle le livre 2, donc un ensemble de psaumes majoritairement rédigés par les fils de Corée. Donc les fils de Corée étaient chargés du chant, de la louange dans le temple de Dieu. Voilà, donc c'est cet ensemble-là de psaumes majoritairement écrits par les fils de Corée qu'on appelle livre 2, donc de 42 à 72. Mais j'ai bien dit majoritairement, mais il n'y a pas que, puisqu'on reverra encore peut-être d'autres psaumes de David. Voilà, donc nous lisons le psaume 45, voilà, on avait déjà fait le psaume 42, 43, 44, et nous lisons le psaume 45, un psaume clé de non seulement du livre de psaumes, mais aussi un chapitre très important de la Bible, le psaume 45, parce que c'est une fois de plus un psaume messianique. Donc on avait parlé du psaume 2, psaume 16, psaume 22, psaume 45, ce sont des psaumes messianiques, donc qui parlent de Jésus avant le temps, donc qui, normalement, pour un juif sérieux, devrait lui montrer clairement la réalité de Christ. Voilà. Malheureusement, beaucoup de gens disent qu'ils suivent un livre ou bien qu'ils suivent une religion sans en réalité lire, connaître la profondeur de ce livre-là. Donc si vraiment un juif lisait les Écritures et arrivait donc au psaume 45, ça devrait l'interpeller. D'ailleurs, Jésus, en discutant avec les pharisiens, il a eu à parler de psaume 45 donc, et du psaume 110. Donc on va y arriver, mais... donc on prend le psaume 45 qui est un psaume messianique mais aussi qui est une description en gloire du Fils de Dieu. Donc on présente Jésus dans la gloire. Voilà, lisons et puis on va continuer à parler.
Psaume 45. Au chef des chantres, sur les lys, des fils de Corée, cantique, chant d'amour. Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau des fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Vaillant guerrier, saint en épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire, sois vainqueur. Monte sur ton char, défends la vérité, la douceur et la justice, et que ta droite se signale par de merveilleux exploits. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sous toi. Elles perceront le cœur des ennemis du roi. Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie par privilège sur tes collègues. La myrrhe, l'aloès et la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Des filles de rois sont parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir. Écoute, ma fille, vois et prête l'oreille. Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi porte ses désirs sur ta beauté. Puisqu'il est ton seigneur, rends-lui tes hommages. Et avec des présents, la fille de Tyr. Les plus riches du peuple rechercheront ta faveur. Toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Elle porte un vêtement tissé d'or. Elle est présentée au roi, vêtue de ses habits brodés, et suivie des jeunes filles, ses compagnes, qui sont emmenées auprès de toi. On les introduit au milieu des réjouissances et de l'allégresse. Elles entrent dans le palais du roi. Tes enfants prendront la place de tes pères. Tu les établiras princes dans tout le pays. Je rappellerai ton nom dans tous les âges. Aussi les peuples te loueront et te loueront-ils éternellement et à jamais.
Voilà, je rappellerai ton nom dans tous les âges. Aussi le peuple te loueront éternellement et à jamais. Donc dans tous les âges. Donc vous savez, la seule personne qui vérifie cette description-là, que son nom soit cité dans tous les âges, c'est le nom de Jésus. Voilà, donc c'est quand vous êtes dans le milieu juif, vous restez entre le nom de Dieu est cité entre eux. C'est pas cité parmi tous les peuples. Alors donc le seul nom qui soit cité parmi tous les peuples dans une sorte d'élévation, c'est le nom de Jésus. Même si ça ne prend pas toujours la bonne forme, mais ne serait-ce que le fait que on compte les années à partir de l'an zéro, l'année de naissance de Jésus, ça nous montre la réalité de cette parole à tous les âges. Donc à chaque fois qu'on cite un âge, on fait référence en réalité à Jésus, puisque c'est soit après Jésus-Christ, soit avant Jésus-Christ, à chaque fois qu'on cite une année. Donc c'est ça la grandeur du Fils glorieux de Dieu qui est décrit ici. Et normalement, quand on lit attentivement, on se rend compte de beaucoup de réalités qui sont bien exposées dans le Nouveau Testament. Donc par exemple, le verset 7 qui dit « Ton trône, ô Dieu, est à toujours. Le sceptre de ton règne est un sceptre d'équité. Tu aimes la justice et tu hais la méchanceté. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie, par privilège, sous tes collègues. » Donc, on parle, c'est comme s'il y avait deux dieux. C'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint d'une huile de joie, par privilège, sous tes collègues. Donc, nous voyons bien que Dieu oint Dieu lui-même. Donc, l'explication ne peut venir que dans la conception du Nouveau Testament du Fils de Dieu qui est Dieu à la fois et qui a reçu l'onction. Lui-même, il en parle dans Luc 4, il dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. » Donc et le nom Messie, quand on dit le Messie veut dire le Christ, ça veut dire loin. Le Mashiach, ça veut dire loin de l'Éternel. Donc, seul le Messie peut vérifier ça. Donc, mais ce Messie-là, il est déclaré Dieu ici. Donc, quand les Juifs sont outrés qu'on dise que Jésus est Dieu, c'est par mauvaise foi ou par ignorance. Puisque là, c'est bien dit, c'est pourquoi, ô Dieu, ton Dieu t'a oint. Donc, Dieu a oint Dieu. Or, on sait que la grande onction est réservée au roi Messie. Donc, ce roi Messie-là sera en même temps Dieu, lui-même. Donc, les Écritures sont claires là-dessus. Et l'apôtre Paul a cité ça aussi dans le livre d'Hébreux pour dire, mais Jésus, on l'appelle Dieu, à la différence des autres prophètes. Donc, dans le livre d'Hébreux, au chapitre 1er, l'apôtre Paul démontre que la révélation qui vient par Jésus est supérieure aux autres révélations. Et donc, il cite le psaume 45 qui appelle Jésus Dieu. Donc, et nous revenons à la description dès le départ. Donc, on dit au verset 3, « Tu es le plus beau des fils de l'homme, la grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. » Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais dans Isaïe 53, on dit pourtant qu'il n'avait pas de beauté pour attirer le regard. Mais ici, on dit, « Tu es le plus beau des fils de l'homme. » C'est que dans Ésaïe 53, il s'agit d'une beauté physique. Donc physiquement, il n'était pas d'une beauté qui attire. Parce qu'aujourd'hui, nous, quand on dit beauté sur un individu, on voit toutes sortes, tout de suite, le côté physique et aussi quelque part le côté convoitise. Donc une beauté physique qui peut attirer dans, un peu dans le mauvais sens. Alors que si on vous parle de la beauté d'un paysage, on ne voit aucun mauvais sens dedans. Mais quand on parle de la beauté d'une femme, il y a une connotation négative qui pense à la convoitise, qui fait référence à la convoitise. Voilà. Mais quand on parle de la beauté d'un paysage, il n'y a pas ça. Quand on parle de la beauté de la nature, il y a, c'est pur, cette phrase-là. Même si la beauté d'une femme, d'un homme, c'est aussi pur, mais à cause des réalités terrestres, ça a tendance à être pris aussi dans le côté convoitise. On aimerait bien prendre cette personne-là. Mais quand on parle de la beauté d'un paysage, il n'y a aucune arrière-pensée. Quand on parle de la beauté de la nature, des astres, il n'y a aucune arrière-pensée. Et donc, il s'agit de cette beauté-là qu'on peut appeler la gloire. Donc, oui, il est le plus beau dans le sens complet du terme, comme on parlerait de la beauté d'un paysage. Donc, le sens spirituel, le sens comportemental, la douceur, voilà. Donc, quelque chose de général qu'on pourrait trouver dans un paysage, qu'on pourrait trouver dans la nature. Donc, il s'agit de cette beauté-là qui n'appelle pas un profit, mais qui peut être synonyme de perfection. Voilà. Donc, il est le plus beau. Donc, il est le plus parfait de tous les fils de l'homme, dans tout, la douceur, la paix, l'innocence. Voilà, il s'agit de cette beauté-là, une beauté spirituelle en quelque sorte, quoi. C'est pas, donc quand Ésaïe 53 parle de l'apparence physique qui peut impressionner. Donc comme on en a connu, comme on en connaît encore jusqu'à aujourd'hui, certaines actrices, certains acteurs, tout ça. Mais là, il s'agit pas de ça. Il s'agit d'une beauté globale. Voilà, globale, la présence, la paix, les paroles qui sont dites, l'humilité, voilà. Donc, la beauté qu'on pourrait attribuer à un agneau, voilà. Quand vous voyez un agneau, c'est beau. Quand vous voyez un chiot, voilà, le bébé d'un chien, c'est beau. Voilà, ce genre de beauté-là qui n'appelle à aucune convoitise. Mais c'est beau, voilà. Il s'agit de cette beauté-là quand on dit que tu es le plus beau des fils de l'homme. C'est-à-dire que c'est quand on te regarde, on dit mais l'homme est magnifique. Voilà. Quand on regarde le Fils de Dieu dans son comportement, dans ses paroles, dans son humilité, dans sa simplicité, sa douceur, sa droiture, on dit mais c'est vraiment... Ça donne envie de rester avec lui. Il est le plus beau des fils de l'homme. Et on l'appelle, c'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. Donc, il s'agit, quand on dit c'est pourquoi, c'est à cause de cette beauté-là que Dieu l'a béni toujours. Il ne s'agit pas de la beauté physique, puisque Dieu ne peut pas te bénir pour qu'une beauté qu'il t'a donnée lui-même. Donc, c'est quelque chose que tu as vécu. Ta beauté, ça a été sa simplicité, son obéissance, son humilité. Voilà, c'est son respect de son père, tout ça fait sa beauté. Et j'ai lu l'histoire d'un Chinois qui était un adepte de Confucius. Et à l'époque, il y avait des serviteurs de Dieu anglais qui étaient arrivés dans sa ville pour la mission. Et... les circonstances ont fait que lui était invité à la maison de ses serviteurs anglais. Alors, il ne voulait pas partir parce que comme c'est les Anglais qui avaient amené l'opium en Chine pour détruire la Chine, donc la conception des Chinois, c'était que les Anglais, c'est des sorciers, c'est des mauvais. Mais il a dit, bon, un jour, il s'est décidé quand même à y aller par curiosité. Et quand il a regardé David Hill, le serviteur chrétien, il a dit, c'est des choses qu'on ne peut pas expliquer. Son visage avait une innocence, une douceur. Bref, vaut mieux dire une beauté. Voilà, une beauté qui faisait que il était conquis. Sans même qu'il parle, Il savait que de la bouche de cet homme ne sortira que la droiture. Voilà. De la bouche de cet homme ne sortira que la droiture. Vous savez, c'est des choses que les chrétiens d'aujourd'hui ne recherchent plus. Les chrétiens d'aujourd'hui veulent faire des miracles ou prophétiser. Donc, bref, la puissance démonstrative, mais la patience, la douceur, la confiance, il y a confiance en Dieu. Vous savez que la confiance en Dieu, ça se lit dans ton visage que tu as confiance. Ça se lit. L'amour pour les autres, ça se lit aussi. Tout ça se lit. Et donc, et il y a aussi le fait que le cœur parle au cœur. La bouche parle aux oreilles de l'autre, mais notre cœur parle aussi au cœur de l'autre. Le cœur d'un homme peut écouter le cœur d'un autre homme. C'est fait comme ça. Donc, quand il l'a vu, il a su que cet homme était droit. Cet homme-là était droit. Il a su que de lui ne pouvait sortir que de bonnes choses et de choses vraies et droites. Voilà. C'est très important. Tout ça est acquis par la patience, par le fait de pardonner aux méchants, par le fait de compter sur Dieu pour tout. Ça transforme aussi ton visage. Ça crée en toi une paix, une sécurité qui irradie ton environnement. C'est des choses qu'on devrait rechercher à nouveau. Voilà. Être des gens de paix, de confiance en Dieu, qui auront confiance en Dieu, des gens qui aiment vraiment les autres, des gens qui sont droits, qui ne vont pas prendre parti pour leurs enfants, même s'ils ont tort. Donc, il faut cette attitude-là, et des gens patients. Tout ça, ça finit par irradier et toucher le cœur. La puissance impressionne le cerveau. Mais c'est le fruit de l'esprit, la nature de Dieu qui touche l'autre cœur et qui transforme réellement les gens. Donc nous devons vraiment penser à ça, à rechercher le fruit de l'esprit. C'est très important pour toucher les autres cœurs. La puissance, ça attire. Mais c'est le fruit de l'esprit qui touche les cœurs. Donc, pensons à cela. Et c'est de cette beauté qu'il s'agit quand on parle du Fils de Dieu, le plus beau des fils de l'homme, fruit du Saint-Esprit à 100%. L'amour, la patience, la douceur, la bienveillance, la fidélité. Lui, il vivait ça à 100%. Vaillant guerrier, un guerrier qui allait jusqu'au bout. Voilà. Saint ton épée, ta parure et ta gloire. Oui, ta gloire. Sois vainqueur, monte sur ton char, défend la vérité, la douceur et la justice. Et que ta droite se signale par des merveilleux exploits. Donc là, on parle de Jésus qui revient dans sa gloire. Donc, au dernier jour, il reviendra. C'est écrit, il sera sur un cheval, sur sa cuisse, ça sera écrit Seigneur des Seigneurs, Roi des Rois. Voilà. Donc, en ce moment-là, il vient avec son épée régler le compte des méchants, défend la vérité. Tes flèches sont aiguës, des peuples tomberont sur toi. Donc, ça, c'est le dernier combat. Donc, il vient dans sa gloire et il sera maintenant sur son trône. Donc, comme on le dit le verset 7, un trône qui est à toujours, qui ne va pas s'arrêter. Et il va régner avec justice pendant les 1000 ans. Donc tout ça est décrit là. Et tout ça vient de quoi? Parce que le verset 8 est capital. Parce que tu aimes la justice. Et tu hais la méchanceté. Jésus a aimé la justice. La justice, c'est être d'accord avec Dieu, surtout. C'est ça la justice. Il a préféré être d'accord avec son Père par rapport à tout. Voilà. La myrrhe, maintenant on est en train d'exalter le Fils de Dieu. La myrrhe, l'aloé et la casse parfument tous tes vêtements. Dans les palais d'ivoire, les instruments à cordes te réjouissent. Voilà. Donc ça, c'est le roi dans sa gloire. Des filles de rois sont parmi tes bien-aimés. Des filles de roi sont parmi tes bien-aimés. La reine est à ta droite, parée d'or d'Ophir. La reine, ça c'est l'église. Voilà. Et écoute ma fille, vois et prête l'oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père. Donc là on parle, parce que ça peut être une difficulté de dire, mais la reine c'est l'église, mais la fille c'est qui? Voilà, la fille c'est le chrétien d'une manière individuelle. Ça c'est la fille. Donc la reine c'est l'église d'une manière, comme un corps, à l'épouse de Jésus-Christ. Et la fille, c'est le chrétien d'une manière individuelle. Et on dit, le roi oublie ton peuple et la maison de ton père. Donc on nous exhorte à faire de Jésus notre vrai roi, notre vrai, à faire du lien avec Dieu, notre vraie nation. Voilà, de Dieu, notre vraie maison, notre vrai père. Donc comme ce fut le cas avec qui? Avec Ruth. Voilà, donc c'est quand on dit écoute ma fille, vois et prête l'oreille, oublie ton peuple et la maison de ton père. Donc c'est l'appel qui est fait à chaque humain de considérer maintenant la nouvelle nation que représente la nation de Dieu, voilà, la famille de Dieu, et avec Dieu comme père. Donc, comme l'exemple concret, c'est l'exemple de Ruth, voilà, qui a dit à Naomi, ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu, voilà. Parce que, vous savez, beaucoup sont retenus par leur culture, beaucoup sont retenus par leur famille, par leur façon de faire d'autrefois. On dit, mais non, quand tu es face au roi, dans sa bonté, dans sa beauté, oublie le reste. Concentre-toi sur le roi. Vis avec le roi. Quand on traîne toujours nos cultures, ben, la vie avec le roi est quelque part coupée. Donc c'est cela qui est dit. Les plus riches du peuple rechercheront ta faveur, toute resplendissante est la fille du roi dans l'intérieur du palais. Le chrétien est resplendissant quand il est dans la même attitude que Jésus. Il aime la justice. Il n'aime pas la méchanceté. Voilà, ça finit par « Je rappellerai ton nom dans tous les âges, aussi les peuples te loueront éternellement et à jamais. » Jésus sera célébré éternellement et à jamais. Qu'est-ce qu'on remarque dans ce psaume? C'est que il n'y a pas le schéma habituel. Je rappelle le schéma habituel, on présente Dieu. Au début, et ensuite, on indique le lien entre la personne qui a fait le psaume et Dieu. Et en troisième position, c'est des lamentations. Des prières pour dire, ben voilà, alors que je suis à toi, regarde ce qui m'arrive. Regarde mes souffrances. Je souffre beaucoup. Les ennemis sont nombreux. Je crie à toi. Et en quatrième position, c'est « Ah oui, je me rends compte que tu m'as entendu et je sais que tu vas glorifier ton nom dans ma vie. » Voilà le schéma habituel d'un psaume. Mais ce psaume 45 n'obéit pas à ce schéma-là. Dans ce psaume, qu'est-ce qu'on a? On présente le Fils de gloire, c'est tout. On présente le Fils glorieux. C'est important tout ça, bien-aimé, parce que il y a des pièges dans la vie chrétienne. Un des pièges, c'est quoi? C'est de croire que, puisque Dieu est tout-puissant, il va tout résoudre. Puisque Dieu est bon, la terre doit devenir une sorte de paradis par sa bonté. Puisque Dieu est tout-puissant, on doit gagner à tous les coups dans tout ce qu'on fait pour lui. Vous voyez, et du coup, on va rester que dans un seul schéma. Dieu est grand, je suis à lui, je souffre, il va me délivrer et je verrai la victoire. On ne peut pas rester que dans un seul schéma. La vie chrétienne, c'est aussi reconnaître que Dieu est souverain, il est grand, il est tout puissant, il est merveilleux et cela ne dépend pas de ce que toi tu vis. Tu n'existerais pas, lui serait toujours grand. Le danger à rester sur un seul schéma, c'est qu'on voudra que ce schéma se répète tout le temps. Or, le christianisme, c'est aussi reconnaître la grandeur de Dieu, quoi qu'il en soit. Vous savez, il y a un monsieur qui, je ne vais pas donner son nom, mais il était missionnaire avec sa famille en Amazonie. Il a fait 20 ans, il n'a pas pu convertir un seul membre de la tribu qu'il était parti évangéliser. Il est devenu quoi ? Athée. Et il avait 3 enfants et sa fille, la dernière, donc lui dit, mais papa, donc tu veux dire que tout ce que tu nous as prêché, tout ce que tu nous as raconté était faux finalement. Donc, les enfants ne l'ont pas suivi dans son apostasie. Les enfants sont restés avec Dieu parce qu'ils savaient que Jésus était réel. Vous voyez comment on peut, par des schémas sur Dieu, sortir de la voie de Dieu et finir mal. Cet homme était dans un schéma de guerre, puisque derrière moi il y a le Dieu Tout-Puissant, puisque derrière moi il y a le Dieu bon, normalement, il doit être capable de toucher ces gens-là. Mais voyant que les gens ne sont pas touchés, pendant 20 ans, il a fini par conclure qu'ils n'avaient pas besoin de Dieu, ils étaient bien comme ça, donc arrêtez de vouloir convertir tout le monde, arrêtez, eux, ils sont bien. Ils s'inquiètent ni de l'enfer, ni du paradis, c'est ça son discours, hein. Ils sont bien comme ça, ils s'entendent bien, ils vivent au présent, ils ont envie de manger, ils vont pêcher le poisson, et ils vont tuer un animal dans la forêt, ils vont prendre des fruits, ils vivent bien comme ça. Pourquoi les perturber? Vous voyez, mes bien-aimés, si ces gens-là étaient si parfaits, pourquoi ils meurent? Pourquoi ils meurent? S'ils meurent, c'est pourquoi il faut connaître l'ABC du salut. L'ABC du salut, c'est le problème, c'est le péché. Et si quelqu'un conteste, il y a la mort pour prouver ça. Parce que comme lui, il commençait à dire en quelque sorte que cette tribu-là est parfaite. Les gens sont bien, ils s'aiment, ils se combattent pas, ils sont bien. Mais dans ce cas, pourquoi ils meurent? S'ils meurent, c'est ce que la Bible dit, Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort. Il faut connaître cet ABC du salut. Parce que si tu ne connais pas ça, tu peux être déstabilisé comme cet homme-là. Il a été déstabilisé parce que ces gens-là n'étaient pas du tout convaincus du péché. Ils vivaient, donc ils ne comprenaient même pas quand tu parlais du péché. Ils ne comprenaient pas quand on parlait du ciel. Eux, ils connaissent aller manger à côté, vivre, c'est tout. Mais est-ce que c'est une raison pour considérer que l'évangile est faux? Non, c'est un blocage, c'est une difficulté. Mais quand on a les autres schémas, comme on vient de lire dans le psaume 45, la beauté du roi, est-ce que ce blocage-là avec cette tribu doit éliminer tout ce que tu vois? Est-ce que ça élimine le soleil? Cet homme a fait un raccourci parce qu'il n'a pas supporté cet échec en réalité. Mais quand tu as ce schéma-là, tu te dis, bon, comme Paul, je sais en qui j'ai cru. Malgré ce que je vis, je sais en qui j'ai cru. Il est le roi de gloire. L'apôtre Pierre a dit, on l'a vu le jour de la transfiguration. Il est le roi de gloire. Ce n'est pas un échec qui va changer cela. Donc, bien-aimés, soyons très prudents. Il faut prendre tout. D'accord, il est tout puissant. Il est bon, il est amour. Mais attention, il est roi malgré tout. Bien aimé, parce que si on suit le raisonnement de ce monsieur-là, les Noirs ont entendu d'aller 1000 ans, 1400 ans pour que l'évangile leur arrive. On peut encore donner tort à Dieu, dire, bon, mais pourquoi il a attendu tant de temps, 1400 ans? Pourquoi? Donc on peut dire beaucoup de choses. Ah oui, mais comment il peut laisser des enfants violer? Donc tout ça, c'est quand l'homme veut tout contrôler, veut tout comprendre. Mais bien aimé, quand on a des schémas comme le psaume 45, on est tranquille, on sait qui est le roi. Amen. Nous passons au psaume 46.
Au chef des chantres, des fils de Corée, sur Alamoth, cantique. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc et il a rompu la lance. Il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Psaume 47. Au chef des chantres, des fils de Corée, vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples. Il met des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez, chantez à notre roi, chantez, car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham, car à Dieu sont les boucliers de la terre. Il est souverainement élevé. Psaume 48. Cantique.
Voilà, que Dieu soit béni. Nous allons lire le psaume 46, reprendre le psaume 46. Donc c'est écrit, Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alors nous commençons par la fin. Et à la fin, il y a un verset qui m'a toujours interpellé, le verset 11. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. Voilà, il dit arrêtez et sachez que je suis Dieu. Quand j'ai lu ça aujourd'hui, je me suis dit, Seigneur, pardonne-nous. Parce que dans ce verset, c'est comme si Dieu nous disait, vous doutez trop, vous hésitez beaucoup avec moi, vous êtes incrédule. Donc il nous parle à nous pour dire, mais arrêtez, je suis le véritable refuge. Dieu est le véritable refuge, bien-aimé. C'est... quand on relit tout, quand il dit donc un secours qui ne manque jamais au verset 2, dans la détresse, c'est extraordinaire, qui ne manque jamais. Et donc quelque part, quand on fait traîner les inquiétudes, ça dérange le Seigneur. Ça dérange le Seigneur. Ce sont des réalités spirituelles. Quand il dit arrêtez, ce qu'il est en face d'un peuple qui calcule, qui raisonne beaucoup. Il dit c'est simple, je suis Dieu. Je peux tout. Arrêtez. Confiez-vous en moi, c'est tout. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. L'Éternel des armées est avec nous dans tous les sens, que ce soit par rapport au danger, il est l'Éternel des armées. Par rapport à autre chose, il est une autre retraite. Il dit, arrêtez. Confiez-vous en moi. Nous réfléchissons beaucoup, nous raisonnons beaucoup. Donc, quand j'ai lu, je me suis dit, mais bon, Seigneur, on est faible, pardonne-nous. Parce que il se justifie hein, dans tout le psaume. Quand il dit, par exemple, au verset 9, « Venez contempler les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. C'est lui qui a emprisonné Hitler. Il en a fini avec lui. » Eh bien, il faut voir l'orgueil d'Hitler. Vous savez, quand les gens aujourd'hui, ils voient l'orgueil des gens du Nouvel Ordre Mondial, Bill Gates, George Soros, les Macron, tous ces gens-là, on a l'impression, ça y est, ils ont pris la terre, c'est fini pour nous. Non, bien-aimés, le Seigneur a fait ça avec, a arrêté Hitler, il va les arrêter également. Nous devons faire confiance en Dieu. Vraiment, c'est son plaidoyer dans le psaume 46, hein, qu'il est le véritable refuge. Quand on lit au verset 3-4, c'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Vous voyez, c'est des événements qui font vraiment peur, quoi. Les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il dit, nous sommes sans crainte. Malgré tout, voilà. C'est vraiment des événements qui font peur terriblement, mais on nous dit il faut être dans la paix. Donc, bien aimé, malgré tout ce qu'on entend gauche à droite, ce qui se passe en Australie, l'Australie se révèle être maintenant le pays le plus dictatorial au monde. Donc, tout ce qu'on voit là ne doit pas nous impressionner. Nous devons garder la paix. Donc, nous allons prier par rapport au psaume 46 que le Seigneur nous donne vraiment la paix. La paix par rapport à tout, par rapport à ce qu'on entend et par rapport à l'avenir au nom de Jésus. Seigneur, nous venons prier, Seigneur, afin que tu nous donnes la paix, Seigneur. La paix, que nous ne puissions pas, Seigneur, nous laisser abattre par tout ce que nous entendons, Seigneur. Que nous gardions la paix au nom de Jésus-Christ. Fortifie-nous, Seigneur, que nous puissions, par rapport au problème d'argent, te faire confiance. Que nous puissions, par rapport au problème de santé, te faire confiance. Que nous puissions, par rapport au problème du réveil que nous attendons, te faire confiance. Que nous puissions, par rapport à tout ce que fait l'ordre mondial, le nouvel ordre mondial, gardez la paix, Seigneur. Que nous gardions la paix, malgré tout, dans le nom de Jésus-Christ. Merci de nous assister, Papa. Nous nous attendons à toi, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha, l'oméga. Seigneur, que nous soyons un peuple qui ne te trahisse pas, comme les espions l'avaient fait, Seigneur. Que nous soyons un peuple qui glorifie vraiment ton nom dans les situations difficiles, Seigneur. Nous voulons, comme Josué et Caleb, dire, nous irons avec Dieu, c'est possible. À toi la gloire, la louange, pour la liberté de prière que tu vas mettre en nous par rapport à n'importe quel sujet. Au nom de Jésus. Amen. Voilà, nous lisons le psaume 47.
Psaume 47. Au chef des chantres, des fils de Corée. Psaume. Vous tous, peuple, battez des mains. Poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. Il nous assujettit des peuples. Il met des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Dieu monte au milieu des cris de triomphe. L'Éternel s'avance au son de la trompette. Chantez à Dieu, chantez. Chantez à notre roi, chantez. Car Dieu est roi de toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations. Dieu a pour siège son saint trône. Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham, car à Dieu sont les boucliers de la terre. Il est souverainement élevé.
Élevé, il est souverainement élevé. Vous voyez un autre schéma de psaume, toujours dans la louange du Dieu de gloire. Donc, on doit s'habituer à tous les schémas. Donc, ce schéma-là décrit notre Dieu comme étant le Dieu de gloire. Et il n'y a pas un côté, on demande, on reçoit, tout ça. Et ce n'est pas cité. Le chrétien doit avoir plusieurs schémas. Et le schéma le plus important, c'est ce schéma-là. Que Dieu est Dieu de gloire, peu importe ce qui peut arriver. Donc, c'est important d'être enraciné dans ça. Si on n'est pas enraciné dans ça, on finira par faillir. Donc, comme on lit dans « Vous tous, peuple, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie, car l'Éternel, le Très-Haut, est redoutable. Il est un grand roi sur toute la terre. » Donc, on nous dit « Ça ne dépend pas de toi. » Il est grand, il est tout puissant, peu importe ce qui se passe. Donc, on nous appelle à le louer, à le glorifier. Il faut qu'on entre dans ce stade-là où les gens comme les Richard Rembrandt, ils sont en prison, maltraités, torturés, mais ils louent Dieu. Pourquoi ? Parce qu'ils sont conscients que Dieu est au ciel. Il est grand, ça ne dépend pas d'eux, ça ne dépend pas de leur santé. Je suis d'accord avec vous que ça fait mal d'être en mauvaise santé. Ça fait mal de souffrir. J'en ai fait l'expérience, j'en fais encore l'expérience. Mais il faut qu'on dépasse ça. Qu'on s'élève au niveau de Dieu. C'est très important de comprendre ces choses-là. Et nous voyons que le psaume 47, le psaume 45, 46, 48 sont dans ce sens-là. Donc, nous devons apprendre à reconnaître la grandeur de Dieu et à le louer. Donc, nous finissons avec le psaume 48 et puis on va chanter par rapport à... Donc, après le psaume 48, les bien-aimés de la louange viendront pour qu'on chante puisque c'est dans cet esprit-là qu'on nous donne ces quatre psaumes. D'abord, question...
Bonsoir. Une question internet. Bonsoir. Devrions-nous avoir peur des systèmes dictatoriaux ? N'est-ce pas le Seigneur qui permet tout cela, mais qui garde son peuple dans la pureté et la sanctification ?
Amen. On n'a pas à avoir peur, justement. Donc, il dit arrêtez. Sachez que c'est moi qui domine sur les nations. Arrêtez d'avoir peur. Voilà. Continuez l'œuvre de Dieu. Travaillez. Ne vous inquiétez de rien. C'est moi qui domine. Voilà.
Il y a une autre question, il y a un internaute qui demande d'expliquer le psaume 47 au verset 5.
47, 5. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob, qu'il aime. Il nous choisit notre héritage, il nous a préparé un héritage. C'est ce que ça veut dire. Il nous a préparé un héritage qui sera la gloire de Jacob. Ok. Nous lisons le psaume 48, comme ça les gens de la louange aussi s'approchent.
Psaume 48, cantique, psaume des fils de Corée. L'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges, dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte. Belle est la colline, joie de toute la terre, la montagne de Sion. Le côté septentrional, c'est la ville du grand roi. Dieu, dans ses palais, est connu pour une haute retraite. Car voici, les rois s'étaient concertés. Ils n'ont fait que passer ensemble. Ils ont regardé, tout stupéfaits. Ils ont eu peur et ont pris la fuite. Là, un tremblement les a saisis, comme la douleur d'une femme qui accouche. Ils ont été chassés comme par le vent d'Orient, qui brise les navires de Tarsis. Ce que nous avions entendu dire, nous l'avons vu, dans la ville de l'Éternel des armées, dans la ville de notre Dieu. Dieu la fera subsister à toujours. Ô Dieu, nous pensons à ta bonté au milieu de ton temple, comme ton nom, ô Dieu. Ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre.
Amen.
Ta droite est pleine de justice. La montagne de Sion se réjouit. Les filles de Juda sont dans l'allégresse à cause de tes jugements. Parcourez Sion, parcourez-en l'enceinte. Comptez ses tours, observez son rempart, examinez ses palais pour le raconter à la génération future. Voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais.
Amen, amen.
Il sera notre guide jusqu'à la mort.
Amen. Voilà, donc là on présente la ville Jérusalem, la ville du grand roi, extraordinairement décrite, et on nous dit qu'il faut louer Dieu. Et donc, par rapport à ces quatre psaumes, nous allons vraiment... on commence par bénir en ré mineur. Bénissez le Seigneur, vous tous serviteurs de Dieu. Et voilà, donc, on nous parle de la ville du grand roi de Jérusalem. Tout ça, ça fait partie des paramètres de la vie chrétienne. Donc, on ne peut pas rester que sur demander et recevoir. Donc, on doit entrer aussi dans la louange, dans l'adoration de Dieu, contempler Dieu, observer Dieu. Et c'est ça la vie chrétienne aussi. C'est ça qui nous permet de tenir. Parce que si tu restes dans demander et recevoir, il y a des moments où tu ne recevras pas. Tu vas faire comment? Tu vas renier Dieu comme ce monsieur-là? Non. Nous devons apprendre le total. Donc, chantons, bénis. Nous qui sommes dans le moment de la nuit, nous allons glorifier Dieu.
Votre Dieu. les cieux et la terre.
La lune et les étoiles.
Lui qui fit les cieux et la terre.
Les animaux, le paysage.
Lui qui fit les cieux et la terre. Lui qui fit les cieux et la terre.
Alléluia Seigneur, nous glorifions ton nom. Au-delà de ce que nous pouvons voir et entendre, nous savons que toi tu demeures Dieu. Seigneur, nous n'allons pas tomber dans le piège de te réduire à des réponses de prière, de te réduire aux circonstances. Toi, tu es celui qui nous dit, arrêtez, sachez que je suis Dieu, je règle tout. Alors, glorifiez mon nom, louez mon nom, célébrez, ô Seigneur. Nous voulons te célébrer, toi qui es exalté au siècle des siècles. Alléluia, Seigneur, merci Seigneur.
Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais, exalté et je loue son Saint.
Exalté.
Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais exalté. Je loue son Saint-Nom. Il est Seigneur, sa vérité.
Il est exalté.
Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux le louer, il est élevé à jamais, exalté et je loue son Saint-Nom. Il est Seigneur, sa vérité. Des cieux.
Il est Seigneur.
Il est Seigneur. Ta vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son Seigneur. Il est exalté. Le roi est au-dessus des cieux.
Alléluia, psaume 48, 10. Ô Dieu, nous pensons à ta bonté au milieu de ton temple. Comme ton nom, ô Dieu, ta louange retentit jusqu'aux extrémités de la terre. Ta droite est pleine de justice. La montagne de Sion se réjouit. Les filles de Juda sont dans l'allégresse. C'est nous les filles de Juda à cause de tes jugements. Bien-aimés, nous devons célébrer le roi, le Seigneur des Seigneurs. L'alpha, l'oméga, quelles que soient les circonstances, on ne doit pas rester que dans la prière, que dans l'évangélisation, on doit louer Dieu. Peu importe la réponse des gens, Dieu mérite la louange. Ce n'est pas parce que les gens ne s'intéressent pas à nous ni à lui que nous, on doit se taire. Il est écrit, la louange doit aller jusqu'aux, retentir jusqu'aux extrémités de la terre, que ce soit une partie de notre vie que de reconnaître les grandeurs de Dieu. Observez Dieu, observez les promesses. Vous savez, quand on décrit la nouvelle Jérusalem d'Apocalypse, tout ça va devenir une réalité un jour, mais nous, on doit louer Dieu pour tout ça avant même. Voilà. Donc, louer Dieu par anticipation. Voilà, nous allons encore chanter sa gloire.
À Dieu soit la gloire pour son grand amour. Car de sa victoire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, est mort sur la croix. Il donne sa grâce à celui qui croit. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, faire écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son nom. Gloire, gloire à Dieu, faire écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur.
Que toute la terre chante en son honneur.
Je veux parler d'un homme qui était lépreux. Et la lèpre, comme je le dis souvent, bon, malheureusement, nous, on a, bon, heureusement aussi, on n'a pas encore vu de lépreux autour de nous ici, en Europe aujourd'hui, mais autrefois, il y avait la lèpre. Et donc, ça peut abîmer tous les organes et ses mains étaient abîmées complètement. Et il était dans la mission évangélique contre la lèpre. Et il y a les médecins chrétiens qui étaient là, qui opéraient les lépreux, qui aidaient un peu. Ils faisaient ce qu'ils pouvaient. Et il a dit aux médecins, est-ce que tu peux m'opérer pour que je loue Dieu, pour que je joue au piano, pour que je... Mais le médecin lui-même se disait, mais c'est impossible. Voilà, donc il a fait de son mieux et il sentait même, malgré l'opération, ça s'est amélioré que de peu. Mais il s'est mis devant le piano. Cet homme, au début, le son était confus, mais avec le temps, les sons sont devenus parfaits. Et cet homme a été même employé dans une église pour jouer au piano. Voilà, c'est pour nous dire que dans sa lèpre, dans sa... Vous savez, il faut voir un lépreux peut-être pour comprendre ça. Et il veut, lui, jouer au piano pour Dieu. Mais nous, on veut compliquer, on veut qu'on soit dans un bonheur, je ne sais comment, avoir tout. Non, bien-aimé, il faut avoir la vision des psaumes qu'on vient de lire. Psaume 48, tu contemples la colline, la nouvelle Jérusalem, tu contemples Dieu dans sa gloire. Voilà, peu importe ce que toi tu es, tu dois dire ce qu'il est. Parce que même le pauvre, quand il voit une Mercedes passer, il reconnaît que la Mercedes est belle. Donc, pourquoi nous, quand on voit la grandeur de Dieu, on veut calculer d'abord comment nous vivons pour pouvoir louer? Non, c'est pas normal. Donc, nous continuons la foi et l'espérance. La foi, l'espérance ont chassé la peur. Une paix immense remplit notre cœur. Selon sa promesse, Jésus changera. Paix en allégresse quand il revient. La foi, l'espérance ont chassé la peur. Une paix immense remplit notre cœur. Selon sa promesse, Jésus changera. Rayonne allégresse quand il revient. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, car écoute sa voix.
Gloire à Dieu,
monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est champion. Que toute la terre chante en son honneur. Gloire à Dieu,
gloire à Dieu,
faire écoute sa voix.
Gloire à Dieu,
monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur. Que toute la terre chante en son honneur. Oui, nous élevons ton nom, Seigneur, au-dessus des maladies, au-dessus de quelconque carence. Nous élevons ton nom, tu es au-dessus des circonstances,
terrestre, tu es au-dessus. Nous élevons ton nom. À toi la gloire. Toi qui es dans ton palais de gloire. Seigneur, les anges te contemplent et disent Saint, 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 et l'Éternel des armées. Ô Seigneur, sa gloire remplit toute la terre. C'est ce que nous disons. Ô Seigneur, béni soit ton nom au siècle des siècles. Merci Seigneur de nous amener dans la louange toute notre vie. Seigneur, de glorifier ton nom, de refuser le silence. Seigneur, de refuser l'insilence. Parce que toi tu existes à tout moment. Tu es glorieux à tout moment. Et tu as choisi les humains pour être des instruments de gloire. Seigneur, que nous ne perdons pas cela, parce que telle chose n'a pas marché. Que nous jouions notre rôle d'instrument mieux que les pianos, mieux que les guitares. Seigneur, enlève de nous la tristesse inutile, alors que toi tu domines sur tout, tu contrôles tout, Seigneur. Enlève de nous les questionnements inutiles, qu'on puisse te louer, Seigneur. Béni soit ton nom, Seigneur. Ton nom est infiniment grand. Que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infiniment.
Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Que ton nom est infini, oh Dieu, très haut. Que ton nom.
Verset 15, voilà le Dieu qui est notre Dieu éternellement et à jamais. Il sera notre guide jusqu'à la mort. Amen. Seigneur, nous te bénissons pour cette étude biblique. Merci de nous avoir assistés. Merci de nous avoir amenés à nous concentrer sur toi parce qu'on fait beaucoup de commentaires, on discute beaucoup. Mais Seigneur, tu veux nous ramener à l'essentiel, c'est de te contempler et glorifier ton nom, Seigneur. Parce que tu es la source de tout. Merci Seigneur pour ton esprit qui nous conduit chaque jour. À toi la gloire et la louange au siècle des siècles. Amen.